Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je vous préviens, je vais le dire à l'antenne. C'est une honte de faire des films contre les curés comme ça.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma en mode édition spéciale aujourd'hui pour débriefer la toute récente cérémonie des Oscars, 88e du nom, qui a vu entre autres le sacre de DiCaprio après tant d'années de tentatives infructueuses. Il repart enfin avec sa petite statuette après avoir vécu l'enfer, dormi dans un cheval, s'être fait quasi dépecer par un ours, puis presque achevé par ce salopard de Tom Hardy. Le tout pour le Revenant d'Iñárritu, mais ça valait visiblement la peine. On a plein de choses à dire sur ce palmarès qu'on va détailler et ça tombe bien. On est nombreux autour de la table ici, autant qu'il y a notamment Alexandre Arvo, Stéphane Moïsakis, Rafik Djoumi et Arnaud Bornas, et c'est Nos Ciné spécial Oscar, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Restons un instant sur DiCaprio, si vous voulez bien. L'Oscar pour The Revenant, est-ce que c'était mérité, Stéphane? Tu me regardes avec des yeux de merde.
Je sais pas si c'était mérité particulièrement, mais écoute, moi j'ai trouvé très bien dans le film. Dans l'absolu.
Donc,
j'aurais voté pour lui. Je sais pas, il y avait qui d'autre.
Alors, il y avait, heureusement, j'ai ma petite liste. Tu vois, il y avait Bryan Cranston pour Trumbo, Matt Damon pour Seul sur Mars.
Ah non, pas lui.
Michael Fassbender pour Steve Jobs et l'inénarrable Eddie Redmayne pour The Danish Girl.
Eh ben écoute, j'ai vu que celui-là. Donc,
ouais, c'est
donc,
bien, c'est cool.
Moi, j'aurais filé à celui-là.
Arnaud.
Non, mais moi je trouve ça. J'ai vu, ça fait la couf de Paris Match là aussi, là, cette semaine. C'est devenu un feuilleton ce truc, c'est insupportable le machin de l'Oscar de DiCaprio. Enfin, il y a déjà des gens dans l'histoire des Oscars qui ont encore plus galéré que lui. Il y en a certains même qui ne l'ont jamais eu.
Tu penses à qui par exemple?
Je sais pas, moi. Bah, dans les cinéastes, il y a Kubrick par exemple qui ne l'a jamais eu. Voilà quoi, c'est. Ça fait plusieurs années déjà. Je pense qu'à partir du moment où la deuxième ou la troisième fois où il l'a loupé, DiCaprio, on a commencé à nous bassiner avec cette histoire. Pareil, je le trouve très bien dans le film. Hein, puis c'est un très bon acteur, hein, DiCaprio, pas de problème. Mais ce feuilleton médiatique autour de ça, je veux dire, le vrai scandale, c'est que George Miller, il l'ait pas eu. Merde.
On va y venir.
Voilà. Le truc, c'est que j'espère quand même que DiCaprio, oui, il va arrêter ses conneries. Maintenant, il va refaire des films comme Critters 3. Donc, voilà, tu vois, parce que c'est bon. Maintenant, il a eu l'Oscar.
Parle de vrai cinéma, ça fait plaisir. Alexandre.
Alors moi, j'aurais peut-être pu le préciser avant, mais j'ai toujours pas vu The Revenant.
D'accord, super.
Donc,
merci, Alexandre.
Par contre, j'ai vu Steve Jobs.
Super, on s'en fout.
J'aime bien Michael Fassbender.
Ah, c'est vachement bien, c'est super intéressant. Bon, on va être obligé d'évoquer très très rapidement Mad Max, parce que vous en crevez d'envie.
Pourquoi
autour de la table. Non, mais pas, je vais pas dire qu'on va en parler rapidement, je le dis de là tout de suite dans l'émission. Donc Mad Max, 6 Oscars quand même, mais que du technique par contre. Meilleur montage son, meilleur mixage, meilleur maquillage, meilleur costume et meilleurs effets spéciaux. Alors c'est bien, mais on est un peu triste comme Arnaud.
Meilleurs effets spéciaux.
Enfin, c'est visual effects, je crois. Attendez, laissez-moi vérifier.
Pas sûr.
C'est Max Kina. Mais quand bien même, en fait, c'est là où tu te rends compte.
Non, pardon, excusez-moi, c'est le meilleur production design qu'ils ont obtenu.
C'est là où tu te rends compte que c'est quand même le film le mieux fait qui est pas bien. Apparemment, assez bien pour avoir l'Oscar. C'est le mieux
fabriqué.
Ça manque clairement de curé pédophile.
Ce qui était amusant à noter, c'est que les Oscars que Mad Max Fury Road a emporté et ceux qu'il a ratés sont pratiquement les mêmes que ceux de Star Wars, voilà, en 78. Et d'une certaine façon, c'est logique, quoi. Encore une fois, on a affaire à des objets de la culture pop, c'est-à-dire des trucs qui remontent d'en bas vers le haut, et l'académie, qui est quand même censée représenter le haut de la pyramide, peut pas gérer ces choses-là. Elle est obligée de les accepter parce qu'elle a notifié l'importance du truc, mais elle peut pas donner la couronne du prince tout de suite à ces choses-là. Donc voilà, c'est presque rassurant pour ceux qui douteraient que Fury Road aura un impact culturel pas forcément aussi énorme que celui de Star Wars, mais dans la lignée, voilà, les Oscars sont là pour le signifier.
Arnaud ?
Non,
je sais que tu es très en colère parce que George Miller n'a pas eu
l'Oscar
du meilleur réalisateur. Tu y croyais pourtant.
Le truc, ouais, moi j'y croyais parce qu'il y avait quand même des signes. Il y avait le fait que depuis la sortie du film, George Miller s'est taillé une réputation. Enfin, on a vu comme moi, personnellement, j'ai rarement, voire quasiment jamais vu autant de réalisateurs mettre un genou à terre devant lui et publiquement et le dire.
Un retournement spectaculaire.
Ouais, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que il y a encore, enfin, avant que Fury Road ne sorte, quand Happy Feet 2 sortait et qu'on hurlait au chef-d'œuvre, on hurlait un peu dans le désert. Et puis là, d'un coup, tout le monde, et c'était magnifique, hein, mais on voyait tous les réalisateurs sur les réseaux sociaux, Edgar Wright, Carnage, je crois, Del Toro, tout le monde, qui disait le gars nous a renvoyé à nos études. Quoi, c'est voilà, 70 balais. Donc ça, c'était étonnant. Ça a entraîné une réputation du film. Enfin, récemment, on a appris que Georges Miller présidait le
Festival de Cannes.
Festival de Cannes, quoi, aussi. Et du coup, il y avait des curseurs comme ça. Et bon, il y avait aussi le film
favori de la critique aussi. Hein. Il y avait énorme sondage critique autour du monde, pardon, autour du monde sur Internet. Et effectivement, Fury Road est arrivé en tête. Et c'était, moi, je sais que c'était au-delà de la surprise, c'en était presque inquiétant. Cette espèce d'unanimité.
Le masque et la plume n'a pas aimé, je te rassure.
Ah, merci les gars. Merci de me rappeler que je vis dans ce monde-là. Mais c'est vrai que c'était très, très. Il y avait une anomalie, en fait, parce que Fury Road correspond si peu à toute cette portion du cinéma qui est théoriquement celle que les académies et les critiques sont censées pousser, qu'on se disait il y a eu un court-circuit presque malsain dans le processus. Et d'une certaine façon, le fait pour moi qu'il n'ait pas l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, c'en est presque rassurant. Ça veut dire que le film est presque condamné à bâtir sa réputation au fil des ans tranquillement sur le terreau populaire d'où il vient.
Mais ça, c'est la critique. Arnaud. Ça, c'est la critique. Parce que moi, je parlais justement du milieu professionnel, où donc il y a des gens qui ont pris la parole pour déclarer leur admiration à Georges Miller. Et ces gens-là, ce sont eux qui votent aux Oscars.
Oui.
Donc, et les réalisateurs.
Là, tu parles des jeunes. Je pense pas qu'un Mel Brooks ou n'importe quel bonhomme de 85 ans qui est aux Oscars, parce qu'aux Oscars, il y a aussi tous les réalisateurs qui ne sont pas en activité.
D'accord.
Et eux, un truc comme Fury Road, ils ne savent même pas ce que c'est.
Oh, bah, je ne sais même pas s'ils l'ont vu, peut-être. Mais bon, le truc, c'est qu'il y avait.
Vous dites pas du mal de Mel Brooks, par contre.
Non, mais quand il y a des réalisateurs comme ça, on va dire, influents dans leur époque, parce que c'est des réalisateurs aussi, c'est pas un costumier ou des trucs comme ça, c'est quand même des votants qui ont une influence, quoi. Donc ça, et puis le fait que malgré tout, même si pour terminer, dans les trois quarts des cas l'Académie fait preuve effectivement de conformisme, il y a eu des belles surprises par le passé, les 13 Oscars du Retour du Roi, une saga d'heroic fantasy qui est couronnée par autant d'Oscars comme ça, c'était effarant.
D'accord,
quoi.
Et t'as un autre exemple parce que c'est le seul. Hein.
Mais c'est ce que je viens de dire, c'est des surprises, tu vois. Donc à partir du moment où c'est advenu une fois. Ça peut advenir une autre fois, pourquoi pas, toi.
Alexandre, tu levais le doigt.
En fait, je levais le doigt pour parler du Retour du Roi, et puis Arnaud vient d'en parler, donc je vais repartir sur mon vin rouge.
Non, mais le Retour du Roi, ça s'expliquait aussi par le fait qu'il y avait eu trois films d'affilée. Ça avait eu le temps de prouver, on va dire, à l'Académie la pérennité du truc, que c'était pas un petit succès d'essai.
Cela dit, les rumeurs ont commencé dès la Communauté de l'Anneau, où il n'y avait que les Oscars techniques, et il y avait des rumeurs qui disaient ils attendent le Retour du Roi pour couronner le film.
Et qu'il y avait eu, une espèce de balayage critique visant à rassurer ceux qui sont effrayés par l'héroïque fantasy que finalement la saga des Seigneurs des Anneaux n'était rien moins que du Ben-Hur actualisé. Et du coup, le Ben-Hur avait eu 11 Oscars, pourquoi pas le Retour du Roi. Il y avait eu cette logique.
Est-ce que éventuellement, du coup, les prochains Mad Max peut-être, auront peut-être une chance de récolter
ils auraient dû jouer et plus insister sur l'analogie que j'ai faite ici même à nos ciné avec Laurence d'Arabie, grand lauréat des Oscars. Là, effectivement, l'Académie m'aurait écouté.
Le souci des Oscars, c'est que c'est des récompenses qui sont faites dans l'air du temps. Hein. Il faut pas oublier de ça. Quand on parle de la Communauté
c'est
de l'Anneau,
c'est très bien Shakespeare in Love. Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Donc quand on parle de la Communauté de l'Anneau de Tours et que c'est le Retour du Roi qui a le qui gagne les trophées à la fin, c'est aussi qu'on a réussi à décontextualiser, on va dire, la sortie des deux premiers films, arriver à voir l'œuvre complète et dire ok, bon bah là on peut effectivement voilà. Donc c'est une surprise, mais c'est pas totalement une surprise non plus. Il y a quand même ça se pose là, et puis je ne sais pas ce qu'il y avait cette année-là non plus. Mais enfin, tu me diras Spotlight cette année par rapport à Mad Max.
Justement, bon, voilà. Peut-être disons-nous.
Le Retour du Roi, quand il a tout gagné, par exemple, il y avait
Lost in
Translation en face. Quoi.
Ouais, super.
Peut-être disons un mot de Spotlight, justement. C'est un film dont on n'a pas parlé dans nos ciné, qui est donc reparti avec cet Oscar du meilleur film. Vous êtes plusieurs à l'avoir vu.
C'est formidable. C'est d'accord. Formidable parce que moi j'ai appris que je savais pas, j'ai appris qu'il y avait de la pédophilie. En fait, le problème de Spotlight, c'est que c'est un film qui dicte son sujet, qui ne dépasse pas ce cadre-là. C'est-à-dire que quand tu regardes tout le film, là, les gens te parlent, ouais, c'est un téléfilm bien fait, etc., etc. Mais même au-delà de ça, au-delà du fait que c'est un film à acteurs, mais en même temps, les acteurs n'ont pas grand-chose à jouer, puisqu'ils jouent. Enfin, en gros, moi, le personnage de Mark Ruffalo ou le personnage de la jeune journaliste, c'est le même, en fait. Il n'y a pas de ligne qui les sépare, à part le fait que c'est un homme et une femme. Et en fait, on pourrait échanger deux rôles, ça serait plus ou moins la même problématique. Donc, en gros, c'est un film qui s'arrête sur les faits, ce qui parle des faits. Très bien, voilà. Enfin, moi, c'est pas du cinéma, quoi. C'est ça le problème. Le problème de Mad Max et même de The Revenant, au final, c'est que c'est des films de cinéma pur. Donc, le là-dedans, ce qui me pose problème avec la victoire de Spotlight par rapport à, par exemple, ces deux films-là, c'est tout simplement l'idée qu'on finalement on dit bravo. Vous avez dénoncé.
Une dénonciation consensuelle.
Voilà, en fait, et en fait, bravo. Et à côté de ça, on ne parle pas de cinéma.
Si effectivement, s'il s'agissait de récompenser entre guillemets, courage politique, d'une prise d'opposition, etc., on peut aussi constater la relative absence d'un film comme The Big Short dans ce palmarès, qui lui, pour le coup,
c'est un
peu plus approché des épines actuelles.
Mais ça, c'est pareil, c'est contextuel. Le problème, c'est que c'est Adam McKay, c'est comme à Cannes, hein. Je veux dire, un mec comme Del Toro, quand il arrive à Cannes et qu'on le laisse rentrer avec Le Labyrinthe de Pan, on va pas le faire revenir avec Hellboy 2. Je veux dire, le problème d'Adam McKay, c'est que si son prochain film c'est une comédie, tu sais déjà qu'il sera pas aux Oscars. Ses 5 films d'avant, c'était des comédies. Donc le truc, c'est qu'ils disent, ah putain, le mec est capable de faire ça. On a remarqué, c'est ce que la nomination veut dire. Mais bon, enfin voilà, on va pas te filer l'Oscar comme ça pour autant. C'est tout le souci là-dedans. Hein. C'est déjà, enfin, les Oscars, c'est. Enfin. En admettant, on va dire que ce soit considéré comme quelque chose encore d'influent vraiment aujourd'hui, oui. J'imagine que pour certains spectateurs c'est le cas.
Au moins pour l'Oscar du meilleur film.
Voilà, mais il faut pas oublier que c'est une question de vitrine. Donc t'as des acteurs, là t'as quand même l'acteur Michael Keaton qui a eu le meilleur acteur l'année dernière. Donc
non,
c'est
non,
d'un seul coup.
Il
a pas eu.
Non.
C'est pas
non,
Michael
non.
Keaton qui a eu. Bon, autant pour moi. Mais il y a Ethan Berman qui a eu le meilleur film, voilà.
Tout à fait.
Donc le truc c'est que d'un seul coup, il y a toute cette vitrine, on se dit, bah voilà, c'est forcément bien joué, c'est forcément bien fait, c'est forcément fait avec goût, ce qui, entre guillemets, pourrait être discutable pour Mad Max et The Revenant, parce que c'est des films qui, effectivement, prennent des risques, contrairement à Spotlight.
Effectivement, c'est évident ce que dit Stéphane, que les Oscars ne sont là que pour représenter, non pas leur époque, mais la façon avec laquelle l'Académie hollywoodienne, donc d'une certaine façon Hollywood, a choisi de se voir à une époque donnée. Et donc c'est très rigolo, parce que depuis le début de l'émission, j'essaie de me souvenir d'un film qui avait été un grand gagnant aux Oscars, et impossible de retrouver le titre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, dans le genre film oublié, mais même si je trouvais le titre, ça ne vous dirait rien. Mais j'invite les gens donc à regarder le grand gagnant des Oscars sorti en 1933, donc ça serait les Oscars de 1934, qui est un film dont je ne retrouve plus le titre, et que dans les oubliés de cette cérémonie, il y avait un film qui s'appelait King Kong, et dont on comprend bien avec le recul pourquoi un King Kong n'avait pas sa place aux Oscars et pourquoi l'autre machin mélodramatique dont je ne me souviens plus avait, parce que Hollywood à l'époque se voyait comme la terre où l'on fait des grands mélos avec des grands sujets d'acteurs, machin, bidule chouette, et qu'un singe qui défonce la moitié de la ville, c'était mais qu'est-ce que ça va foutre là, quoi, en quoi ça va nous représenter, ça va vous représenter pourtant pour les 80 à 90 ans à venir, quoi, mais voilà, c'est intéressant cette dynamique, elle est pareille au César, elle est pareille dans d'autres pays, peut-être moins en Espagne, j'ai l'impression, où les Goya sont plus emblématiques de la santé ou de la non-santé du cinéma espagnol.
Ils sont un véritable marqueur de qualité, quoi. C'est-à-dire, on sait qu'on va voir du cinéma, quoi, des films étonnants. Quoi.
Mais voilà, mais il en est effectivement de même pour les Césars. On parlait tout à l'heure d'Adam McKay sur The Big Short. Merci, pardon. C'est Cavalcade. Merci, c'est bien celui-là que je cherchais.
Cavalcade. Donc, c'était voilà. Ce film de
1933. Cavalcade était le grand film aux Oscars. Voilà,
et on ne l'a pas vu.
Mais vous avez vu peut-être King Kong.
Ah oui, ça par contre, oui.
Sympathique, je recommande. mais voilà, mais en France, on avait eu un Claude Zidi qui avait fait un film entre guillemets à César qui s'appelait Deux avec Gérard Depardieu et Maroche Cadet-Mers.
Parce qu'on parlait
d'Adam McKay, en fait. On parlait de ces gens, en fait, d'une certaine façon, qui n'ont pas la carte, qui n'ont pas le droit de faire ce genre de film-là. Et le film Deux, qui est un film que j'aime beaucoup et que je recommande pour ceux qui arriveraient à le voir, c'est fascinant de se dire que ce truc a été complètement mis sous le tapis. Enfin, il y avait un côté, on veut surtout pas que alors qu'il y avait un putain de Depardieu à l'affiche. fiche. Hein. C'est parce que ces petits comiques rigolos, en faisant des films qui normalement ne sont pas de leur recours, prouvent qu'ils savent le faire et peut-être même savent le faire un peu mieux que les autres.
Alexandre.
Et, juste en parlant de petits comiques rigolos, on n'a pas parlé, comme on a parlé que du palmarès depuis tout à l'heure, on n'a pas trop parlé du contexte de la soirée, donc je ne vais pas revenir sur la polémique, machin, les nominations un peu trop blanches et tout, mais Chris Rock, le host de la soirée, a quand même fait un putain de mon taf à mon avis, même si je dois avouer que j'ai pas vu les 3 heures de la cérémonie, mais en tout cas ne serait-ce que son monologue d'intro qui a été parfois vilipendé parce qu'il a fait quand même des blagues assez hardcore sur le lynchage des afro-américains dans les années 30,
des noirs,
oui on peut le dire même hein. Et non, donc, du coup il a fait quand même un speech qui a réussi à voilà à la fois être extrêmement drôle au premier degré, à être politique sans non plus être en mode social justice warrior, voilà, ça concilie à peu près tous les niveaux sans être conformiste pour autant, et je trouve que Chris Rock a fait un super bon boulot, et en plus de ça, bon, c'est un peu décorrélé de la cérémonie en elle-même des Oscars, mais Chris Rock est lui-même réalisateur. Il a notamment signé un film qui s'appelle Top 5, qui est sorti dans l'anonymat le plus complet directement en VOD en France et qui est en ce moment même, pour ceux qui sont abonnés à Canal, en replay sur Canal à la demande, et qui est une très, 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 très bonne comédie que je recommande à tous. Donc, Chris Rock, for the win.
Merci Alexandre, il est ingérable. Juste pour terminer, est-ce que vous avez un regret, un film ou un acteur qui aurait mérité d'être, non pas peut-être récompensé, mais au moins nommé, qui est un grand absent de la
série. On parle de Stallone ou pas ?
Bon, alors, vas-y, dis un mot sur Stallone, je t'en prie, Stéphane.
Non, mais le truc avec Stallone, c'est que... C'est
Stallone qui était nommé pour,
il était nommé pour
meilleur,
Creed.
Pour Creed, voilà. Acteur dans un second.
Alors voilà, bon, non, le truc qui m'a... ce que j'ai trouvé étonnant, ça, pour être ta fenêtre, ça me faisait un peu chier qu'il soit nommé pour ce film-là, après les 6 premiers films, on va dire, en tant qu'acteur. Le fait qu'il n'ait pas eu l'Oscar n'est pas étonnant. Oui. D'ailleurs, il faut être honnête, hein, Mark Rylance est vraiment extraordinaire dans
Le Pont des Espions.
Mais Stallone n'en est pas moins extraordinaire dans Creed, même si ça fait donc 7 films qui jouent le même personnage. Mais le truc qui est assez intéressant à noter, c'est que c'est un peu comme, c'est un peu comme le fait que Mad Max n'ait pas eu l'Oscar. Quelque part, il y a une petite revanche, on prend notre revanche de geek, de cinéphile, entre guillemets, là-dedans, dans le sens où ça reste quand même le loser magnifique par excellence, du coup, Stallone. Et c'est un peu, il se retrouve dans la position dans laquelle le personnage de Rocky était à la fin du premier Rocky, quand justement, en fait, on l'a fait parader pour faire toutes ces choses-là et qu'il a mené à distance jusqu'au bout et qu'en fait, il n'a pas gagné, mais qu'il a quand même...
Oui, voilà. Rappelons quand même, parce que ça, c'est un truc qui, effectivement, a été... il y a une amnésie autour de ça, mais le premier Rocky avait eu l'Oscar du meilleur film et était nominé dans je ne sais combien de catégories, dont celle du meilleur scénario écrit par Stallone.
Voilà, et le truc avec Stallone, c'est que ça fait juste 40 ans que par contre il est nommé au Razzie Awards, qu'il est vilipendé par Hollywood depuis...
Ils ont fait un Razzie Award de contrition, je crois, cette année.
Voilà. Il a gagné le Razzie Awards inverse, en fait.
Ce qui est complètement dingue, enfin, only Hollywood. Quoi. Tu te dis, en gros, il gagne ce Razzie Award-là, il ne gagne pas l'Oscar d'autre côté, mais bon. Ah voilà, donc quelque part, c'est un peu rassurant parce que j'avais un peu peur que sa carrière tourne du coup autour des performances à acteurs qu'il n'est pas forcément capable de mener à terme, pour autant, quoi, même si j'adore Stallone et que je trouve que c'est un excellent acteur qu'on ne le reconnaît pas assez. Mais voilà, ça rend un peu triste quand même, quelque part, même si bon. Ouais.
Arnaud, un regret autour de cette cérémonie ? Outre le fait que George Miller n'ait pas eu l'Oscar, ça on a compris.
Ouais, non, je sais pas. Bah, ils ont pas filé l'Oscar à Jennifer Lawrence parce que le film est du coup passé un petit peu inaperçu, mais c'était vraiment magnifique. Joy, là,
de David Russell.
David Russell, elle était nominée, quoi. Et puis, c'est une actrice qui est pas tout le temps formidable, mais quand elle donne toute la pleine mesure de ses moyens à déblé, quoi. Et c'est le cas dans ce film, quoi. C'est un magnifique rôle, quoi, ce rôle de Joy. Ouais, c'est dommage qu'il ne s'est pas nominé. Elle a même pas été nominée, Charlize Theron d'ailleurs, dans Mad Max Fury Road. Je sais pas après, non.
Les nominations aux Oscars sont généralement tributaires, non pas de la qualité du travail de chacun, mais du succès des films qui ont eu.
Et d'un certain lobbying qui est opéré aussi derrière pour.
Et
pour
bien sûr, le lobbying, mais c'est-à-dire que les studios, effectivement, vont mettre en avant les films qui ont marché, c'est normal. Mais bon, c'est par rapport à l'Oscar. pardon, à l'Oscar de la musique, où était donc c'est Morricone qui l'a emporté pour les 8 salopards. Bon, Morricone qui est un petit peu abonné au prix, quoi.
Mais qui n'avait jamais gagné l'Oscar. Hein.
Oui, mais bon, ça
premier.
Va, quoi.
Quand même, c'est
avec la carrière qu'il a, je crois qu'il pouvait carrément s'en passer. John Williams aussi, hein. Hein, aurait pu se passer d'être nominé, mais on a un compositeur qui a fait un triplé absolument délirant l'année dernière, peut-être même un quadruplé, qui est Michael Giacchino, qui a composé un score hallucinant pour Jupiter Ascending, suivi d'un score absolument dingue pour Tomorrowland, suivi du score pour le Pixar, qui est magnifique aussi. Enfin, genre, le type a fait une année juste en or, quoi. Sauf qu'il a eu le malheur de tomber sur des films qui ne vont pas se retrouver forcément donc, aux Oscars. Et ça, c'est dommage. Donc, Oscar pour Michael Giacchino, pour ma part.
Alexandre ?
Moi, c'est marrant que Rafik vienne parler à l'instant de Ennio Morricone, parce que justement, on était tous très contents parce qu'il n'avait jamais eu d'Oscar, il avait eu son Oscar pour machin, etc. Mais c'est le seul prix, sauf erreur de ma part, que les 8 salopards de Tarantino a remporté. Il en a peut-être pris un ou deux, j'en sais rien. Enfin, bon, je pense que c'est
le seul. Non, c'est le seul.
Voilà, c'est le seul, ou en tout cas le seul notable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les 8 salopards. Et du coup, je pense que ça n'aurait pas forcément démérité distinction autre que sa BO.
C'est une séquence dans le film qui t'a plu particulièrement et que l'Académie aurait eu du mal à récompenser.
Ça va encore.
Et Dieu merci, Promouvoir n'a pas réussi à le faire interdire en France.
Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas désespérer, Alexandre. Nos ciné spécial Oscar, c'est terminé. Merci à tous.
On va faire un film sur Promouvoir.
D'avoir participé. Oui, bien sûr. Mais je te conseille de le financer. Merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil. Nos ciné version normale, c'est tous les lundis. Nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions et on vous dit à très bientôt.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.